Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 28e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi il est important de se connecter à la nature pour être heureux? Laissez-moi vous poser une question pour commencer. Quelle est votre expérience la plus récente de contact avec la nature? Une fois ce souvenir ravivé, que ressentez-vous? Bien souvent, je prépare mes chroniques, comme celle-ci, dans un parc de ma ville, le parc du Dispensaire. Calme et arboré, c'est un îlot paisible à proximité du mouvement nerveux de la ville. Pendant que mon petit garçon, seul ou avec des camarades, parcourt les allées à vélo ou skateboard, je me pose sur mon banc préféré. Ce banc, il est parfaitement situé. À mi-parcours des extrémités du parc, je peux observer mon enfant, quelle que soit la zone dans laquelle il a envie de jouer. De plus, mon banc est toujours à l'ombre, protégé par de hauts arbres, marronniers, tilleuls. Il fait face à un magnifique pin, de tendres pelouses, un jardin pédagogique décoré d'animaux géants et un labyrinthe gardé par des dinosaures. Dans cet univers de verdure, d'odeurs de terre, de feuillage et d'herbe, le rythme de mon temps ralentit. Mes pensées vagabondent en douceur, un bien-être s'installe en moi. Quelquefois, mon fils recrute quelques copains et me sollicite pour leur organiser une chasse au trésor. Il aime ce jeu. Il arrive facilement à convaincre ses amis d'y participer. Je leur demande alors d'observer attentivement l'environnement et de parcourir le parc à la recherche de petits éléments de la nature que je leur demande de me rapporter. Plumes, bâtonnets, marrons, chutes d'écorce, pommes de pin, feuilles particulières ou petits cailloux colorés. Je remarque combien cet exercice les calme. Ils cherchent minutieusement ces petits trésors et s'entraident lorsqu'un des leurs peine à trouver. Ils développent naturellement leur attention et leur curiosité. Peut-être que pour vous, la connexion à la nature se fait à travers le jardinage. Cette passion populaire et apaisante a des effets bénéfiques sur le stress. Jardiner permet de manger sain, renforçant son alimentation en légumes. Équivalent à un sport, il favorise la perte de calories par l'effort. La pratique régulière du jardinage entraînant une baisse du taux de mauvais cholestérol et une réduction de 30 à 50% des risques cardiovasculaires. D'après une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arkansas, le jardinage permet de lutter contre l'apparition des premiers signes d'ostéoporose. Jardiner étant l'une des activités physiques qui préserve le mieux la qualité des os et le bon fonctionnement des articulations. En effet, dans la majorité des cas, la nature nous fait du bien. Notre stress diminue. Un sentiment d'apaisement prend place. Une douce mais puissante énergie nous recharge. Nous nous ressourçons. Arrêtons-nous un instant sur ce mot. Se ressourcer. Retourner à la source. Retrouver l'énergie des origines, celle de notre propre naissance. Car le mot « nature » vient du latin « nascor » qui signifiait « naître ». La nature nous offre de nous connecter à notre nature humaine et animale. Naturelle, notre nature profonde. Elle nous autorise à être, n'ayant plus besoin de paraître. Elle nous permet de renaître. La nature nous rappelle cette capacité à nous connecter à notre enfant intérieur. Seule piste réelle à notre disposition dans notre quête de l'éternelle jeunesse, mais aussi dans notre capacité à renaître, à nous transformer, à oser changer qui se nomme néothénie. Ce don de renaissance nous est donné à tous. Il est accompagné par celui de décider de ce que sera notre futur et aussi de ce que sera notre passé. Nous avons l'aptitude de remettre en question nos préjugés, a priori, convictions, croyances croyances limitantes et même de nous réinventer une vie et une enfance heureuse. Fort de ces principes physiologiques et philosophiques, nous avons tous une seconde chance de faire et de nous faire une bonne première impression. Chaque choix n'est donc plus un renoncement, chacun de nos choix est un choix. C'est une nouvelle naissance. N'avez-vous pas remarqué comment nous redécouvrons le plaisir des sens au contact de la nature? Nous nous surprenons à entendre comme si c'était la première fois le chant d'un oiseau, le bruissement du vent dans les feuillages, les clapotis de l'eau d'un ruisseau, le grondement des vagues entre les rochers. Nous nous laissons porter par l'observation des changements opérés par les saisons, toutes les nuances de coloris offertes à nos yeux, les saveurs des plantes comestibles et des fruits glanés au gré de nos balades, les multiples odeurs que nous sommes capables de distinguer, sans oublier toutes ces sensations tactiles au contact de toutes les formes de vie, végétales, minérales ou animales. À l'opposé de la rareté organisée de nos vies économiques, la nature est abondante. L'air et l'eau de mer sont abondantes. Chaque plante produit beaucoup plus de graines qu'elle en a réellement besoin pour se reproduire. La nature est généreuse par nature. Et la nature n'est pas un paradoxe près. Elle fournit ses ressources en abondance, tout en pratiquant l'économie intelligente de son énergie. Car la loi du moindre effort est bien une loi naturelle, comme l'a prouvé Henri Laborie. On n'a jamais vu l'eau du torrent remonter vers le sommet de la montagne. Cependant, la nature est capable de fournir des efforts colossaux lorsque la vie est en jeu. Une simple et fragile petite fleur peut fendre le béton pour atteindre l'air et la lumière. Ainsi, au contact de la nature, nous retrouvons notre capacité à retrouver la simplicité dans l'économie de nos efforts, mais aussi notre puissance de vie qui peut nous faire réaliser des exploits. Les Japonais ont développé une pratique médicale très populaire appelée Shirin-yoru, ce qui signifie « bain de forêt ». Cet art médical est considéré comme une science qui rapproche l'homme de la nature et de son harmonie dans le but de nous relier à notre capacité naturelle d'auto-guérison. Nos cinq sens sont sollicités pour se connecter à la végétation, plantes et arbres notamment, nous réconciliant avec notre mère nature. Dans son livre « Shirin-yoru, l'art du bain de forêt », le grand spécialiste mondial des vertus de guérison des forêts, le médecin immunologiste japonais King Lee, fait état de ses recherches. Les analyses de sang, d'urine et les mesures du système nerveux qu'il a pratiqué indiquent qu'une seule journée passée à respirer l'air de la forêt réduit de façon spectaculaire le taux d'adrénaline et de cortisol, l'hormone du stress. Dans l'esprit du Shirin-yoru, de nombreuses activités nous aident à nous relaxer, à retrouver détente et harmonie en phase avec la nature. Et quel que soit notre niveau de forme physique, nous pouvons trouver le bain de forêt le plus adapté. Nous pouvons simplement marcher en forêt, à notre rythme, préférant une marche lente avec des arrêts d'imprégnation, d'observation fine, ce qui est favorable à l'éveil de nos sens. Nous pouvons pratiquer des exercices de yoga en forêt, favorisant des postures simples, respirant profondément, savourant les formes, les parfums et les sons de la forêt. C'est un espace naturel parfait pour pratiquer le tai chi ou le qigong. Bien entendu, les forêts sont des lieux riches pour la pratique de la méditation en pleine conscience et de toutes les formes de contemplation et d'apaisement des émotions. C'est sous le vocable de sylvothérapie que le bain de forêt avec un objectif de guérison, est connue en France. Mais c'est une autre pratique qui s'est développée récemment. Le tree hugging, ou séance de câlin avec un arbre. Oui, j'imagine votre surprise, mais c'est bien sérieux. Enlacer un arbre de ses bras, visage et corps plaqués contre le tronc, les pieds solidement ancrés contre les racines, en respirant calmement, les yeux fermés, provoque des sensations de bien-être profond, de vibrations bénéfiques, d'énergie retrouvée, et chasse tensions, pensées négatives et stress. Cependant, la pratique du tree hugging n'est pas récente. De nombreuses traditions l'attestent, et au XIXe siècle, le mouvement romantique savait déjà ce que les neurosciences ont fini par confirmer. Le compositeur Beethoven, connu pour enlacer le tilleul de sa cour, écrivait en 1810 à son amie Thérèse Malfatti « Les forêts, les arbres, les rochers nous rendent en effet l'écho désiré. Au contact de la nature, nous mesurons la réalité de l'interdépendance de toutes les formes de vie, dont nous-mêmes. Nous prenons conscience d'être une partie d'un écosystème complexe. Notre relation à la nature est un vecteur de ce système. Nous observons les multiples symbioses en action tout en sachant que la plupart des réseaux d'interaction et d'interdépendance entre les organismes vivants sont invisibles à nos sens. L'arbre a besoin du champignon qui ne pourrait vivre sans l'arbre. L'abeille a besoin de la fleur qui a besoin de l'abeille pour se reproduire. Nous avons besoin de bactéries pour digérer et elles ont besoin de nous pour survivre. Des exemples de coopération entre espèces au service du cycle de la vie sont innombrables. Quant aux chênes, Francis Allais, le grand botaniste, interroge : Qu'est-il, ce grand chêne ? Pour le géographe, une marque paysagère, témoin d'ancestrales pratiques agricoles. Pour le forestier, un cylindre de bois noble, susceptible d'être abattu, débité, puis vendu à un prix intéressant. L'informaticien y verra un défi pour la simulation graphique et se mettra à la recherche des algorithmes les plus significatifs. Êtes-vous porté vers la mystique ? Alors, ce chêne devient un trait d'union entre le ciel, le monde des hommes et la terre, un symbole cosmique donnant accès à l'universel. Une approche naturaliste y verra plutôt, affublée d'un nom latin, une forme de vie remarquable par sa longévité et l'ampleur de ses surfaces d'échange. Motif urbain, source de gland pour nourrir les porcs, simple tache d'ombre pour le marcheur de l'été ? Pas du tout ! Dit l'adepte des médecines douces. Dans cet arbre circule un flux d'énergie tellurique. Adossez-vous à son tronc et vos douleurs lombaires vont s'apaiser. Vous n'y êtes pas, dit le philosophe. Ce chêne est avant tout la matérialisation de l'écoulement du temps, à la fois mémoire naturelle et support de mémoire culturelle. Il est le principe même de la civilisation. Connectons-nous dès que possible à la nature, parce qu'elle participe à notre bonheur. Un bonheur simple et naturel, un bonheur vibrant au diapason de la nature, un bonheur dansant au rythme de la nature. La joie de respirer le bonheur. Le bonheur de renaître à chaque inspiration, pour mourir à chaque expiration, et renaître encore et encore. Le conte de la semaine est un conte africain d'Henri Gougo intitulé Le trésor du baobab. Un jour de grande chaleur, un lièvre fit halte dans l'ombre d'un baobab. S'assit sur son train et contemplant au loin la brousse bruissante sous le vent brûlant, il se sentit infiniment bien. Baobab, pensa-t-il. comme ton ombre est fraîche et légère dans le brasier de midi. Les feuilles se mirent à frissonner d'aise, heureuses des pensées amicales qui montaient vers elles. Le lièvre rit, les voyant contentes. Il resta un moment béat, puis clignant de l'œil et claquant de la langue, pris de malice joyeuse. « Certes, ton ombre est bonne, » dit-il. « Assurément meilleure que ton fruit. Je ne veux pas médire, mais celui qui me pend au-dessus de la tête m'a tout l'air d'une outre d'eau tiède. » Le baobab, dépité d'entendre ainsi douter de ses saveurs, après le compliment qui lui avait ouvert l'âme, se piqua au jeu et laissa tomber son fruit dans une touffe d'herbe. Le lièvre le flaira, le goûta, le trouva délicieux. Alors il le dévora, son pour lécha le museau, hocha la tête. Le grand arbre, impatient d'entendre son verdict, se retint de respirer. « Ton fruit est bon, » admit le lièvre. Puis il sourit, repris par son allégresse taquine, et dit encore « Assurément, il est meilleur que ton cœur. Pardonne ma franchise, hein. Ce cœur qui bat en toi me paraît plus dur qu'une pierre. » Le baobab, entendant ces paroles, se sentit envahi par une émotion qu'il n'avait jamais connue. Offrir à ce petit être ses beautés les plus secrètes, Dieu du ciel, il le désirait, mais tout à coup, quelle peur il avait de les dévoiler au grand jour. Lentement, il ouvrit son écorce. Alors apparurent des perles en collier, des pagnes brodées, des sandales fines, des bijoux d'or. Toutes ces merveilles qui emplissaient le cœur du baobab se déversèrent à profusion devant le lièvre dont le museau frémit et les yeux s'éblouirent. « Merci, merci, tu es le meilleur et le plus bel arbre du monde » dit-il, riant comme un enfant comblé et ramassant fiévreusement le magnifique trésor. Il s'en revint chez lui, l'échine lourde de tous ses biens. Sa femme l'accueillit avec une joie bondissante. Elle le déchargea à la hâte de son beau fardeau, revêtit pagne et sandales, orna son cou de bijoux et sortit dans la brousse, impatiente de s'y faire admirer de ses compagnes. Elle rencontra une hyène. Cette charognarde, éblouie par les enviables richesses qui lui venaient devant, s'en fut aussitôt à la tanière du lièvre et lui demanda où il avait trouvé ces ornements superbes dont son épouse était vêtue. L'autre lui conta ce qu'il avait dit et fait à l'ombre du baobab. La hyène y courut, les yeux allumés, avide des mêmes biens. Elle y joua le même jeu. Le baobab, que la joie du lièvre avait grandement réjoui, à nouveau se plut à donner sa fraîcheur, puis la musique de son feuillage, puis la saveur de son fruit, et enfin la beauté de son cœur. Mais quand l'écorce se fendit, la hyène se jeta sur les merveilles comme sur une proie, et fouillant des griffes et des crocs les profondeurs du grand arbre pour en arracher plus encore, elle se mit à gronder. « Et dans tes entrailles, qu'y a-t-il ? Je veux aussi dévorer tes entrailles. Je veux tout de toi, jusqu'à tes racines. Je veux tout, entends-tu ? » Le baobab, blessé, déchiré, pris d'effroi, aussitôt se referma sur ses trésors et la hyène insatisfaite et rageuse s'en retourna bredouille vers la forêt. Depuis ce jour, elle cherche désespérément d'illusoires jouissances dans les bêtes mortes qu'elle rencontre sans jamais entendre la brise simple qui apaise l'esprit. Quant au baobab, il n'ouvre plus son cœur à personne. Il a peur, il faut le comprendre. Le mal qui lui fut fait est invisible, mais inguérissable. En vérité, le cœur des hommes est semblable à celui de cet arbre prodigieux, empli de richesses et de bienfaits. Pourquoi s'ouvre-t-il si petitement quand il s'ouvre ? De quelle hyène se souvient-il ? Pour l'action de la semaine, je vous suggère de vous offrir un temps de connexion à la nature dans les 7 jours qui viennent. Si vous n'avez pas de jardin ou de forêt à proximité, choisissez un parc municipal. Posez-vous un instant, assis sur un banc, un rocher, une bûche ou allongé sur l'herbe, et passez en revue ce que la nature vous offre, vos sens en éveil. Prenez conscience de l'impact de ce moment sur votre humeur. Pour la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec l'immense groupe Queen et leur titre « Don't Stop Me Now ». C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Don't stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.